Troisième temps de cet échange sur la mondialisation ou démondialisation financière. On a eu une crise qui a été financière, avec une accélération des échanges financiers qui a été extrêmement vigoureuse avant 2008. Et puis depuis, là aussi, hein, des courbes qui changent de pente, de sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que c'est souhaitable? Je vais commencer avec Olivier Klein, qui piaffe d'impatience depuis déjà quelques temps. Olivier est statisticien de formation. Il est passé par HEC, où il enseigne l'économie et la finance. Et puis, il est aussi par ailleurs banquier depuis un certain temps et depuis 5 ans directeur général de la BRED, qui est la banque la plus importante du groupe BPCE. Alors vous allez me dire, la BRED, ça vous est peut-être l'image d'une banque locale, régionale, mais elle a aussi des activités, des filiales bancaires en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique, en Afrique, en Suisse, et donc une vraie vision avec une salle aussi de marché. Donc ce n'est pas seulement une banque française. Alors, Olivier, globalisation financière, qu'est-ce que ça a été tout d'abord ?
Oui, juste pour le jeu, je ne piaffais pas du tout. Je voulais simplement dire tout à l'heure que précisément de par l'implantation de la BRED, je voyais, et c'est en aucun cas une contestation des statistiques, mais je voyais la Chine, probablement on verra mieux ça dans les chiffres par la suite, mais je voyais la Chine installer dans beaucoup, beaucoup de pays des usines de sous-traitance. Et c'est très impressionnant, non seulement en Asie du Sud-Est, mais aussi en Afrique de l'Est, mais aussi dans le Pacifique, et que de ce fait, parce que le niveau justement des salaires en Chine est devenu important par rapport à certaines productions à bas coût, ils sont en train de sous-traiter énormément par ailleurs. Ce qui veut probablement dire que tôt ou tard, on verra apparaître quand même dans les statistiques à nouveau un retour du commerce international, puis il va falloir faire traverser ces marchandises, et notamment à travers la route de la soie. Voilà, c'était simplement ça que je voulais dire, qui me paraissait apporter juste une petite exemple pour commenter les propos. Alors, revenons maintenant au marché des capitaux, et pour dire que, oui, on a eu, évidemment, avec la globalisation financière qui a démarré, grosso modo, fin des années 70, début des années 80, en fonction des différentes zones du monde, on a eu un développement tout à fait important des flux de capitaux transfrontières, et de ce fait, on a eu des encours bruts extérieurs, si on compare ça au PIB, et des engagements extérieurs, par exemple des États-Unis, qui sont passés début 80 de 25% du PIB, aussi bien pour les avoirs extérieurs que pour les engagements extérieurs, donc les actifs comme les dettes, si on veut, des États-Unis vis-à-vis de l'extérieur, à 150% du PIB ces derniers temps pour les avoirs et à 175% des engagements, pour les engagements. Et pour la France, si je prends cela, avec l'effet dû aussi naturellement à la zone euro qui a accru ces phénomènes, on était à 20% au début des années 80, tant pour les engagements que pour les avoirs vis-à-vis des autres pays, du reste du monde, et c'est passé à 300% du PIB. Donc, les phénomènes de mondialisation est très clair, des capitaux, sur 80, des années 80 maintenant, on voit bien l'explosion du marché des capitaux interpays ou transfrontières. En même temps, depuis 2008, on voit ce qui a été dit, et je ne vais pas y revenir évidemment, un ralentissement du PIB très profond, un ralentissement de la croissance, même si là on a un petit retour, et on a vu que le commerce international avait baissé davantage encore. Et maintenant, sur les flux internationaux de capitaux, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça ne s'est pas passé, sauf dans les flux de capitaux interbancaires. Là, l'interbancaire, à cause de la crise, n'a pas remonté du tout au niveau où c'était juste avant la crise, et de loin, je crois que Laurence en parlera certainement un petit peu tout à l'heure, et de loin, mais en revanche, pour les marchés de capitaux hors interbancaires, ces flux ont continué de se développer, même depuis 2008, et l'interdépendance financière s'est accrue. Et je donnerai simplement un exemple sur cela, qui est dû, notamment après 2008, au fait que les taux, à cause de la crise financière qui était si grave, sont tombés à zéro, voire parfois inférieurs à zéro, dans les pays, par exemple, européens ou américains. Et on a eu un phénomène bien connu dans la finance de Caritrade, qui était que les gens qui n'avaient plus de capacité à placer avec un rendement aux États-Unis, par exemple, prenaient de l'argent aux États-Unis, l'envoyaient dans les pays émergents, le changeait ou pas en dollars, car il y a dans les pays émergents des pays qui sont aussi bimétalliques et qui acceptent le dollar aussi bien américain, ou le changeait dans la devise et le plaçait du coup à 5% ou à des taux totalement différents. Et en faisant cela, ils ont favorisé naturellement la croissance des pays émergents, et c'est très bien ainsi. Ils ont aussi évidemment créé un peu d'instabilité potentielle, parce que dès lors que les capitaux vont pour chercher les meilleurs rendements, et c'est légitime dans un monde globalisé, hein, n'est-ce pas, c'est pas une question de responsabilité, ils vont chercher les meilleurs rendements. À partir du moment où il y a la moindre petite inquiétude, tout s'en va très vite aussi à l'envers, et ça crée des instabilités potentielles pour les pays émergents qui sont aussi fortes. C'est pour cela d'ailleurs qu'en 2013, quand il a été question de limiter le quantitative easing, qui a donné d'énormes masses de capitaux, dont une bonne partie sont allées se placer dans les pays émergents, l'effet dit de tapering, de limitation du quantitative easing, a provoqué un malaise dans les pays émergents, parce qu'il y a beaucoup de capitaux qui ont commencé à rentrer aux États-Unis avant même que ce soit fait, et qui du coup ont asséché pour partie certains pays qui comptaient bien sur ces capitaux pour pouvoir se développer. Et juste là, simplement pour dire, du coup, même la Fed aujourd'hui, qui est la banque centrale des États-Unis, gère la capacité à remonter les taux ou à limiter le quantitative easing en intégrant ce phénomène, parce que dans le fond, ils sont co-responsables de ce qui va se passer dans les pays émergents. Et les États-Unis ont aussi besoin des pays émergents. Donc la Fed gère cela en étant très précautionneuse dans la remontée des taux et dans la suppression ou le ralentissement du quantitative easing pour éviter des retours un peu brutaux. Et simplement pour terminer, avec ce qui s'est passé là, la corrélation entre les marchés actions aux États-Unis, par exemple, et les marchés actions des pays émergents a monté d'environ 58% avant 2008 à 75% environ en ce moment. Donc on voit que cette corrélation est due à cette intégration financière très forte. Mais cette corrélation pousse aussi au mimétisme, naturellement, puisqu'à un moment donné, tout va baisser ou tout va monter ensemble, ce qui est évidemment potentiellement aussi déstabilisant ou potentiellement utile, ça dépend comment c'est régulé.
Alors justement, c'est la question que vous voulez poser à Laurence Cialhomme. Donc Laurence, elle est professeure à l'université Paris-Ouest Nanterre-la-Défense. À Paris-Nanterre, ben, c'est pas ce que j'ai vu sur le site internet. Donc une petite mise à jour, excusez-moi. Donc spécialiste d'économie financière, membre qualifié de l'ONG Finance Watch, entre autres. Olivier nous a décrit avec juste un chiffre, hein, cette formidable accélération de la globalisation financière. Et il nous explique que, sauf sur un segment qui est les prêts interbancaires, cette globalisation continue. Est-ce qu'elle a les effets positifs qui ont souvent été présentés comme devant venir de cet accroissement des échanges de capitaux.
Alors, la globalisation financière nous a été vendue avant la crise, hein, comme devant apporter tout un tas de bienfaits qui étaient une meilleure allocation des capitaux, une meilleure dissémination des risques. Ça devait soutenir la croissance de la finance, et l'hyperfinanciarisation dans laquelle on est très liée à la globalisation financière devait soutenir la croissance. Et très largement, ces promesses n'ont pas été tenues, hein, puisque en termes d'allocation des ressources, très largement les mouvements internationaux de capitaux, notamment à très court terme, financent des actifs déjà existants plutôt que des activités réelles, et notamment finance des bulles immobilières, finance des bulles sur les marchés boursiers. Ça s'est très bien vu, par exemple, au moment de la crise asiatique. Et ces afflux de capitaux ont souvent, notamment dans les pays émergents, eu pour effet, mais également en Europe, avant la création de l'euro, une appréciation du change nominal, une dépréciation donc de la compétitivité de ces pays. Et puis à un moment, ça paraît insoutenable, il y a une crise de change, et là, il y a les reflux des mouvements de capitaux. En termes d'allocation des ressources, il y a des problèmes. En termes de dissémination des risques, les marchés dérivés, les marchés de transfert de risques nous ont été vendus, entre guillemets, comme étant permettant une meilleure dissémination des risques. En réalité, le risque ne disparaît jamais. Simplement, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que le risque a été concentré dans des zones où, relativement opaques. Et on l'a bien vu, la crise de 2007-2008, c'est la première crise de l'ingénierie financière. Jamais on n'aurait eu une crise de cette ampleur. Et donc, le fait que une crise née sur un petit segment de la finance américaine soit disséminée dans l'ensemble du monde, si ces produits n'avaient pas été packagés dans des produits titrisés, avec des CDO carrés, etc. Bon, bref, et que tout le monde en avait acheté parce que les notations des meilleures tranches étaient bonnes et qu'il n'y avait pas de capital à mettre devant. Donc là, on est vraiment dans une crise qui est une crise de l'ingénierie financière et qui est très liée à la globalisation financière. Par ailleurs, des travaux très récents montrent que l'hyperfinanciarisation pèse sur la croissance au lieu de la soutenir. C'est-à-dire que le développement de la finance, accompagne la croissance jusqu'à un certain niveau de développement de la finance, mais tous les pays développés sont très au-delà de ce niveau. Et dans tous ces pays-là, le développement de la finance pèse au contraire sur la croissance, plutôt prédatrice. Et il y a également des liens qui ont été mis en exergue, notamment par les travaux de Rechef Philippon et d'autres, le lien entre hyperfinanciarisation et montée des inégalités. Donc, tout ça n'a pas donné les fruits. Et pourtant, paradoxalement, aujourd'hui, la baisse des prêts interbancaires la déglobalisation est avant tout une déglobalisation bancaire, et il faut rajouter avant tout européenne. Et paradoxalement, là, pour le coup, la déglobalisation est dramatique, parce que cette fragmentation de l'espace financier européen que ça traduit porte en germe une crise plus profonde qui pourra aller jusqu'à une crise de l'euro. Et donc on est face à un paradoxe. Je pense que c'est moins la question des frontières que la question de la régulation de la finance qui devrait être posée.
C'est même un peu attristant ce que tu nous proposes, parce que tu dis la mondialisation a été catastrophique et la démondialisation est dramatique.
Non, pas partout.
Donc, avant de revenir sur l'Europe, parce qu'on va naturellement y venir, puisque ce qui s'est passé sur l'interbancaire, sur la baisse des flux interbancaires, ça provient en large partie de ce qui s'est passé en Europe. Mais avant de venir sur l'Europe, sur le jugement assez critique que porte Laurence sur les effets de la globalisation financière, est-ce que tu partages ce jugement, ou est-ce que ça a même apporté quelque chose qui n'était pas totalement inutile ?
J'enseigne à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation assez forte entre les moments de globalisation dans l'histoire et l'instabilité financière. Donc je pense qu'il y a effectivement un lien de cause à effet entre la globalisation, quand elle est peu mal régulée ou mal régulée, et les moments et les récurrences des crises financières qui sont revenues et qui n'existaient plus pendant la période où les marchés étaient moins globalisés. Cependant, évidemment, la globalisation financière a aussi permis, d'une manière ou d'une autre, à la Chine, par exemple, de pouvoir se développer, parce que c'est grâce au fait que la Chine a pu exporter davantage et financer les États-Unis qui importaient ses biens, que la Chine a pu se développer sur l'exportation des biens auprès des pays avancés. Et d'une certaine manière, c'est parce qu'il y a circulation sur le marché des capitaux que des pays ont pu se développer, non pas en se finançant à partir des pays développés, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, mais en finançant les importations des pays développés qui venaient des pays émergents. Donc je crois là que, évidemment, et comme le dit Laurent, ce n'est pas une question de dire la globalisation c'est bien ou c'est mal, de toute façon c'est ainsi. En revanche, La bonne question, me semble-t-il, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de limiter l'instabilité financière dans un monde de financiarisé ou globalisé financièrement. Et là, évidemment, il y a beaucoup de choses à se poser. Alors, après, si on veut être dans la théorie, mais ce n'est pas le moment, il est évident que les promesses de la globalisation financière, et je rejoins aussi Laurence, n'étaient pas les bonnes. On a cru, pas certains d'entre nous, mais voilà. Mais en tout cas, certains théoriciens ont dit que la globalisation allait fournir effectivement beaucoup plus de moyens, d'abord d'une meilleure allocation d'épargne, puisque les gens auraient davantage le choix, d'une meilleure capacité à diversifier les risques, etc. Et au fond, on s'est aperçu que les crises financières les plus graves revenaient. C'est, à mon humble avis, parce que la finance est intrinsèquement instable et parce que, tout simplement, c'est très difficile de valoriser par un prix fondamental le prix d'un actif patrimonial. Et qu'il n'y a pas, parce que la théorie des marchés efficients et la théorie des anticipations rationnelles est fondée sur des présupposés peu réalistes, il n'y a pas facilité à trouver d'avance quel est le prix d'équilibre d'un prix d'actif patrimonial, c'est-à-dire d'un prix d'actif financier ou de l'immobilier. Et de ce fait, c'est des marchés d'opinion. Et d'ailleurs, dans les marchés financiers, on est dans des marchés d'anticipation. Chaque fois qu'on achète ou qu'on vend, c'est parce qu'on anticipe l'évolution future. Donc ces marchés d'opinion sont sensibles aux mouvements d'opinion et donc sensibles au mimétisme, aux conventions, etc. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas besoin des marchés financiers, même à côté des banques. Non seulement on a besoin des banques, mais on a besoin des marchés financiers. Parce que les banques ne peuvent pas tout faire, d'une part, parce qu'elles ont des quantités de capitaux propres qui sont nécessaires pour financer, et il y a beaucoup plus de besoins de financement que des capacités de financement des banques. Donc les banques sont indispensables, et elles sont des éléments régulateurs et stabilisants, parce qu'elles sont régulées, mais en même temps, les marchés financiers apportent des compléments. Il se trouve simplement que le partage entre la part qu'on donne aux marchés financiers par rapport à la part qu'on donne aux banques est aussi une question structurelle qui met en cause ou pas la stabilité globale financière. Et qu'ensuite, réguler les seules banques, c'est bien, mais c'est absolument insuffisant, puisque en ce moment, ce que je suis en train de voir, c'est que les fonds d'investissement, les fonds de placement, les assureurs, les shadow banking en général, sont en train de prendre des risques sur lesquels ils ne sont pas régulés et qui vont poser problème, à mon avis, dans les prochaines années, notamment au prochain retour de la crise, d'une crise économique réelle ou d'un ralentissement. Mais on verra ça plus tard. La chose, c'est que la régulation doit être complète, sinon elle est insuffisante, par définition. Voilà. Et donc, oui, il y a une instabilité intrinsèque. Oui, on a besoin de la finance. Il faut donc trouver les moyens pragmatiques, théoriques et pragmatiques qui permettent de la réguler le mieux possible pour éviter des trop grosses crises. Ça, je
vois. Donc, on a besoin de la finance. Cette finance est par nature instable. Donc, il faut la réglementer d'autant plus que sa mondialisation se continue. Quels sont les principaux axes où il faut agir, Laurence ?
Alors, en fait, je pense qu'on est resté un peu au milieu du guet, c'est-à-dire qu'on a avancé sur un certain nombre de sujets. Indiscutablement, les banques sont mieux capitalisées, mais en même temps, elles étaient tellement mal capitalisées que même si elles ont triplé leur capital, trois fois pas grand-chose, ça fait pas toujours suffisant. Et je pense aussi qu'on a un faux sentiment de sécurité, c'est-à-dire que pour ne pas que les banques se capitalisent plus, on a mis en œuvre des politiques notamment de... On leur impose d'émettre des types de dettes qui permettent du renflouement interne, c'est-à-dire pour ne pas solliciter le contribuable, on dit maintenant on va solliciter ceux qui détiennent des créances sur les banques. Donc c'est les fameux instruments de bail-in. Le problème étant, c'est que je suis intimement persuadée que ce n'est pas applicable en cas de crise systémique, parce que c'est un vecteur de contagion massif. Ce n'est possible, et on l'a vu en Italie, c'était un cas encore un peu particulier, puisque c'est des épargnants qui détenaient les titres, donc là, évidemment, le contribuable était en première ligne. Mais même dans le cas d'une crise systémique, je pense que ça serait un instrument, parce que qui détient ? Ce sont d'autres acteurs financiers. Et donc, ça serait un vecteur propagateur de crise. La grande avancée qu'on a faite, c'est de mettre des réglementations sur la liquidité des banques. Aussi imparfaite soit-elle, c'est reconnaître que le risque de liquidité, c'est le talon d'Achille des banques, et particulièrement des banques européennes. du fait de leur structure de financement, qui est très dépendante des financements sur les marchés de gros de la liquidité. À mon sens, la grosse erreur qu'on a faite, là où on n'a pas suffisamment avancé, c'est sur la réglementation du shadow banking. Là, pour le coup, on est vraiment... très en deçà de ce qu'on devrait faire. Et notamment, un des gros problèmes, c'est que les liens sont excessivement forts entre les banques systémiques et le shadow banking. Les prêts interbancaires ont diminué, mais pas les prêts des banques au shadow banking. C'est ce qui apparaît très bien dans les travaux les plus récents empiriques sur ces questions. Et je pense également qu'on a mal traité la question des banques too big to fail, c'est-à-dire que du fait de ce que j'ai dit sur le bail-in, je suis persuadée que les garanties implicites des États demeurent très très massives sur l'ensemble des banques, et c'est pour ça qu'à titre personnel j'étais pour et je suis toujours pour une séparation pas du type Glass-Steagall Act, mais une séparation du type plutôt Vickers et Liikanen, c'est-à-dire une filialisation avec des ratios de capitaux différents, des conseils d'administration différents, etc. Donc voilà.
Alors, avant de passer la parole aux étudiants pour leurs questions, je voudrais même qu'on évoque la spécificité européenne, parce que clairement, il s'est passé quelque chose en Europe dans la globalisation financière qui a été là une rupture absolument majeure. Olivier, comment tu l'expliques et comment ça va évoluer ?
C'est en réalité l'endroit dans le monde où on a une déglobalisation financière. Et ce n'est pas du tout une bonne nouvelle, comme le disait Laurent Selhomme juste avant. Mon interprétation est simple. La zone euro s'est construite de façon incomplète. Moi, j'étais favorable à la zone euro. Simplement, je disais qu'il fallait des éléments pour que ça fonctionne qui ne pouvaient en aucun cas se résumer aux critères de convergence, mais qui étaient, par nécessité, comme aux États-Unis, quand on fait la zone dollar américaine, US, c'est évidemment... des coordinations de politiques économiques et des possibilités de faire des transferts au moins partiels, fiscaux, donc des mutualisations partielles de dettes d'une autre manière. On ne l'a pas fait. Les marchés n'ont rien vu et ne se sont pas posé les bonnes questions depuis la création de l'euro jusqu'en 2012. Et tout d'un coup, ils se sont aperçus que contrairement à ce qu'ils avaient imaginé, c'est-à-dire que les balances courantes allaient... fallait les regarder qu'aux bornes de la zone euro et non pas aux bornes de chaque pays, se sont aperçus qu'il y avait des pays qui avaient des balances courantes en déficit profond et qui pouvaient avoir du mal à se financer. Ils ont pris peur eux-mêmes. Ils ont entraîné du coup, très naturellement, comme d'habitude, un effet contagieux, dangereux, entre la dette publique du pays et les taux d'intérêt dans un cercle vicieux qui allait déboucher sur l'éclatement de la zone euro. Et heureusement, puisque plus personne ne voulait financer à l'intérieur de la zone euro les pays qui étaient en déficit courant important, heureusement, Draghi est intervenu en disant « je vais protéger, je vais acheter de la dette publique, je vais faire du quantitative easing après », a-t-il dit, et surtout le « whatever it takes », évidemment, de 2012. On a là affaire, à mon humble avis, à un très grand banquier central. On n'aurait pas eu cela, la zone euro éclatait. Donc, la réalité aujourd'hui, c'est qu'on n'a toujours pas de marché des capitaux privés qui finance par les excédents des pays en excédent, les pays en déficit de balance courante au sein de la zone euro. Ça passe donc par le système, en réalité, de l'eurosystème, banque centrale européenne. Et pour ceux qui ont étudié cela, ça se voit très très bien dans les balances target, où l'on voit les divergences complètes, c'est-à-dire il y a des pays qui sont en excédent en train de prêter à la Banque centrale, et il y a des pays qui sont en déficit en train d'emprunter à la Banque centrale, et ceci représente les positions cumulées des balances courantes et des balances de finances, des positions financières des pays. Pour l'instant, on finance comme ça. Et naturellement, ça peut ne pas être durable, parce qu'il peut y avoir des pays, et l'Allemagne le dit, qui en aurait assez de financer des pays qui ont des déficits sans cesse accrus, alors qu'eux ont des déficits sans cesse, des excédents sans cesse accrus aussi symétriquement. Sachant que l'Allemagne, évidemment, tire bénéfice de la situation de la zone euro, pourrait avoir des excédents absolument énormes. Mais il n'en reste pas moins que ça ne peut pas être totalement durable. Et donc, on est dans une situation où le marché des capitaux privés ne marche plus, on fait tout reposer sur le système banque centrale, c'est-à-dire l'eurosystème, sachant qu'un jour ou l'autre, ça ne peut pas non plus s'aggraver en permanence entre les pays en déficit et les pays en excédent, tout le temps qu'on n'a pas construit quelques petits éléments de fédéralisme qui seraient nécessaires pour que l'ensemble soit sain et durable.
Laurence, je pense que tu partages l'essentiel de...
Oui, je peux rajouter
une... Oui, mais et peut-être comment aller plus loin au-delà des...
Alors, moi je pense que fondamentalement, ça traduit le fait, ce qui se passe actuellement, la fragmentation financière en Europe, aujourd'hui traduit le fait que l'euro est une monnaie incomplète. Une monnaie incomplète parce qu'on a fédéralisé l'émission de la monnaie centrale, mais on a oublié que plus de 80% de la monnaie créée, c'est de la monnaie bancaire. Or, en réalité, et qui plus est, en Europe, on a des systèmes bancaires excessivement concentrés, donc c'est concentré dans des très, très, très grosses banques. Et ce faisant comme... bien sûr, on a fait l'union bancaire. Hein, quand vraiment c'est devenu un peu chaud, on a fait l'union bancaire. L'union bancaire, c'est quoi? C'est de dire, eh bien, maintenant, la supervision des plus grosses banques systémiques va se faire au niveau fédéral. C'est de dire, maintenant, la résolution, c'est-à-dire quand il y a des problèmes, ça va se faire également au niveau fédéral. Et puis, il y a un troisième pilier, qui est le pilier qui reste en suspens, qui est l'assurance dépôt fédéral. Tant que ce troisième pilier ne sera pas fait. Tant que ça ne sera pas, on n'aura pas été au bout, un euro dans une banque grecque ne vaudra pas un euro dans une banque allemande. Pour la simple raison que le déposant grec est moins bien protégé que le déposant allemand. Et on l'a vu très bien au moment où ça chauffait un peu au niveau des banques italiennes. Eh bien, vous avez des tas d'actifs bancaires italiens qui ont été se mettre dans des banques de pays qui semblaient plus solides. Et tant que ça ne sera fait pas, tant qu'on n'aura pas un backstop, c'est-à-dire une dose de fédéralisme, comme ça vient d'être dit, et tant que ça sera donc les États qui seront à la manœuvre pour renflouer leurs propres banques. N'oublions pas que nous, notre système banque, enfin nos banques, c'est 4 fois le PIB de la France, hein, et concentré sur 4 banques systémiques. Là, on est vraiment champion. Hein. Donc, s'il y a un problème, et quand je vous disais, les banques sont bien capitalisées, mais enfin, voilà. Aujourd'hui, si on regarde les tests de stress des banques françaises, et si on regarde pas par actif pondéré par les risques, hein, on regarde les actifs et des éléments du hors bilan. Il suffit d'une baisse de l'ordre de 5,5% de la valeur des actifs pour mettre à terre, pour manger le capital de nos banques, de nos plus grandes banques. 5,5%. Quand vous regardez le modèle d'activité, c'est-à-dire la déformation de la structure de ces banques en faveur du trading, l'engagement sur les marchés dérivés, certes, c'est un très gros choc, mais on en a eu un il y a moins de 10 ans, un choc de ce type.
Question des étudiants.
Bonsoir, Alice Ville, élève de Nanterre. Quand on parle de globalisation financière, on parle forcément d'évasion fiscale dans une certaine mesure. Depuis l'appel de Genève, qui n'a malheureusement pas porté ses fruits, je me demandais quels étaient les, comme Madame la députée l'a dit, l'Europe étant une boîte à outils mal utilisée, quels sont les outils européens que nous pourrions mettre en place pour lutter contre l'évasion fiscale ?
Sylvie qui est répondue à cette question.
Non, c'est une excellente question. D'abord, il y a aussi un aspect fiscal dans la manière dont on draine l'épargne. Est-ce qu'on est capable, par la fiscalité, d'amener l'épargne vers de l'investissement de long terme sur l'économie réelle ? Et à mon avis, il y a vraiment un lien. Dans votre question, est excellente. Je pense qu'on n'a pas assez combiné les outils de régulation financière, de volonté de contrôler la finance, avec des outils fiscaux. Pour l'instant, il y a un choix qui a été fait par les gouvernements successifs, tous, puisque ce sont eux qui négocient, ratifient les traités, qui a été de dire, on fait le marché intérieur dans le domaine des biens, des capitaux, etc., mais on n'a pas de moyens de prendre des décisions à la majorité qualifiée pour faire progresser une certaine convergence fiscale. J'ai moi-même été un des rapporteurs du projet d'assiette commune consolidée d'impôts sur les sociétés. C'est à mon sens... Et d'ailleurs, la Commission s'y est attaquée. Mais le problème, c'est que comme il y a l'unanimité des États, je ne sais pas si on va y arriver. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est que dans un marché comme le marché intérieur, il est normal que vous ayez la même assiette. Quitte, personnellement, je le crois, à laisser aux États une certaine souplesse dans le taux, de manière, par exemple, à ce que des États périphériques qui ne peuvent pas avoir les mêmes stratégies de chaîne de valeur que des pays qui sont au centre du continent... puissent avoir des politiques d'attractivité. Donc, si déjà on arrivait à avoir une assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés, ce qui, encore une fois, est dans les tuyaux et va dépendre de l'esprit de responsabilité des ministres des Finances. Le Parlement européen l'a déjà voté, mais là-dessus, on n'est pas dans ce qu'on appelle la codécision complète. C'est-à-dire que, en principe, une loi européenne s'est adoptée sur proposition de la Commission et vote à égalité du Parlement européen et du Conseil des ministres, qui forment en gros deux chambres, la Chambre des citoyens et la Chambre des États. En matière de fiscalité, non seulement vous n'avez pas la majorité qualifiée à la Chambre qui est le Conseil des ministres, qui fait que le moindre État, même le plus petit, ce qui démocratiquement est absurde, peut bloquer ce qui est voulu par une immense majorité, mais en plus le Parlement européen n'a pas le même, n'est pas placé sur un plan d'égalité. Donc pour moi, ça serait la priorité absolue. Et encore une fois, par rapport à ce qui a été dit, parce qu'il se trouve que ça fait 8 ans que j'ai été à peu près sériel rapporteur de tous les textes sur ces sujets, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Je crois que l'une des vraies questions, c'est que c'est pas que la finance est bonne ou mauvaise. Elle est bien contrôlée ou elle est mal contrôlée. Or, il est évident qu'à l'époque des années 80-90, de cet énorme développement, on n'a pas suffisamment supervisé la finance. Donc, il faut absolument pas diaboliser une activité qui, par exemple, pour le financement de la transition énergétique, de l'abandon du carbone, est absolument centrale. Par contre, il faut veiller à ce qu'on contrôle les acteurs. Et en Europe, en fait, on a un problème qui est lié au fait que les banques tiennent une place beaucoup plus considérable dans le financement de l'économie que les marchés. Et c'est une de nos grandes différences avec les États-Unis, mais je ne veux pas en dire trop.
Autre question ?
Bonsoir. Un rapport du FMI analysant les données de 149 pays conclut sur le fait que lorsqu'un pays ouvre ses frontières à la finance mondiale, ses inégalités sociales croient. Et de plus, si le pays décide ensuite de refermer un peu ses frontières, l'effet sur la réduction des inégalités n'est pas statistiquement significatif. Alors, sachant cela, est-ce que globalisation financière et réduction des inégalités sont deux choses incompatibles ?
Laurence ?
Alors, je me référerai pas à cette étude-là parce que c'est pas là-dessus. Enfin, celle-ci, je l'ai pas lue. Voilà. Par contre, les canaux sont assez bien connus. Hein, en quoi la globalisation financière ou simplement l'hyperfinanciarisation accroît les inégalités. Alors, ça se fait d'abord par le haut de la distribution, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez une concentration de très hauts salaires, notamment liée aux modalités de rémunération dans la finance, hein, et pas dans n'importe quelle finance, hein, pas dans la banque de détail, dans la banque, dans la BFI essentiellement, en tout cas pour ce qui est des banques. Donc vous avez ça, et vous avez à l'autre échelon, enfin c'est-à-dire plutôt, enfin pour les salariés, vous avez les personnes plutôt pauvres qui sont donc qui s'endettent simplement pour maintenir leur niveau de vie, où là c'est une espèce de trappe à pauvreté, l'endettement. Et puis vous avez des personnes aisées qui ont un accès beaucoup plus facile au crédit et qui peuvent utiliser le crédit justement pour avoir des opportunités d'investissement. Alors ça, c'est des travaux de l'OCDE assez récents qui montrent un peu ces différents canaux par lesquels l'accroissement, le développement de la finance va généralement de pair avec pas le développement de la finance en tant que tel. À un certain niveau de développement de la finance, ça va souvent de pair avec la montée des inégalités.
On va prendre une dernière question.
Oui, bonjour. J'aimerais savoir, en raison de discours de certains politiques concernant le retour vers une monnaie nationale, si cela est réaliste et quels seraient les effets sur la sphère financière.
Qui prend ? Laurence ?
Je viens prendre, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, au printemps de l'économie. Donc, je pense, il y a deux effets sur les banques. Il y a une récente étude du CEPI, d'ailleurs, qui a montré en fait que le secteur financier serait parmi les plus atteints, notamment parce que ça alourdirait. On peut penser que si on retournait au franc, pour parler clairement, on aurait une dépréciation du franc par rapport aux monnaies fortes, une appréciation par rapport à d'autres monnaies. Et en fait, ça veut dire que une fois cela compté, par de purs effets de bilan, vous aurez un accroissement important de l'endettement du secteur bancaire français. Et donc, dit accroissement d'endettement, dit moins de capitalisation. Hein, parce que si vous avez plus d'endettement, c'est nécessairement moins de capital. Mais ça, c'est statique. C'est-à-dire ça minimise les effets dramatiques. Parce qu'en fait, vous auriez, ça c'est très bien vu en Grèce, il faut voir les effets dynamiques. C'est-à-dire que la simple anticipation, le fait que devienne crédible, le fait de sortir de l'euro et de revenir au franc, ça génère des sorties de capitaux. C'est-à-dire que bon, si vous avez les moyens, si vous êtes informé et que vous avez des actifs dans une banque française, ben, vous allez plutôt les mettre dans une banque où vous pensez que la monnaie va se réévaluer. Et ça, c'est une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'au-delà des purs effets de bilan statiques, vous auriez des effets dynamiques qui sont dévastateurs. Donc je pense que le secteur financier serait... Alors par ailleurs, il y a des perdants et des gagnants dans le reste de l'économie, mais la finance, c'est perdant.
Sylvie, un dernier mot ?
Bah écoutez, c'est une fabuleuse question pour conclure. Je crois que c'est typiquement une idée qui peut séduire des gens qui sont dans des difficultés, mais qui se retournerait extrêmement brutalement contre les plus pauvres. Parce qu'il est évident que la première chose qui se passerait, ça serait la réintroduction, et pour votre génération, c'est un truc qui est inimaginable, du contrôle d'échange. Parce que avant même, d'ailleurs, à mon avis, la prise de fonction, je ne sais pas si vous savez qu'il y a une semaine entre le deuxième tour de l'élection présidentielle et la prise de fonction. Quel est l'individu qui sera assez idiot, ou malheureusement les gens les plus pauvres et les moins informés, pour garder sur son compte en banque même une somme mineure, vous avez 100 euros, vous la gardez en France? L'objectif des gens qui seraient allés au pouvoir avec ce slogan, c'est de faire baisser la valeur de la monnaie, dont vous n'aurez plus après que 70, 60, enfin on ne sait pas très bien combien, même mettons si c'est seulement 60, vous perdez 40, vous le mettez dans un pays qui va se réévaluer et vous gagnez, par un simple clic de souris, vous allez gagner 120, votre compte en banque vaudra 120, 130, etc. Donc comme ceci serait annonciateur d'un chaos complet, probablement on entrerait dans du contrôle de change. Ça veut dire que toutes les entreprises françaises qui ont des contrats à honorer, tous les gens qui voyagent, tous les étudiants qui sont ici avec une famille qui est à l'étranger, tous ces gens-là seraient impactés. Donc c'est typiquement le genre de choses qui me paraît, non seulement pour la finance, mais pour nous tous, parce que nous sommes tous des financiers, si j'ose dire, tous les gens qui ont simplement à utiliser de la monnaie sont des gens qui sont impactés par la finance, tous ces gens-là, et y compris les plus pauvres. Je préside l'intergroupe de lutte contre la pauvreté du Parlement européen, et c'est franchement, je vais vous dire, ce qui me choque le plus, c'est de donner des solutions qui en fait se retourneraient massivement contre les gens qui sont déjà en train de galérer pour boucler leur fin de mois.
Une mondialisation est peut-être en train de s'achever. Mais d'autres formes de mondialisation continuent. La mondialisation prend de nouvelles formes, avec d'autres effets qui ont été évoqués, aussi d'autres périls. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir des débats sur cette forme de mondialisation, sur ces formes de la mondialisation, des débats politiques, et Sylvie l'a bien montré. Mais aussi, il faudra, pour bien comprendre ces effets, pour bien comprendre ces périls, il faudra aussi un vrai travail économique. Et ça sera à vous de le faire. Et en attendant, je vous propose de remercier nos panélistes. Et aussi notre panel d'étudiants.
Oui, je voulais vous remercier parce que le débat a été long, on devait le faire en deux tables et c'était difficile vu l'heure. Nos intervenants sont remarquables sur des sujets aussi complexes. On va mettre en ligne la nocturne de l'économie, ça sera sur journeedeléconomie.org. Vous pourrez retrouver toute la conférence. Et puis j'espère vous retrouver à Créteil l'année prochaine pour un autre débat. Merci.